Charles Dickens, Barnabé Rudge. Traduction de M. Bonhomé. Chapitre 37. Environner quelque chose de monstrueux ou de ridicule d'un air de mystère, c'est l'investir d'un charme secret et d'un pouvoir d'attraction qui est irrésistible pour la foule. Faux prêtres, faux prophètes, faux docteurs, faux patriotes, faux prodiges de toutes sortes, enveloppant leurs actes dans le mystère, se sont adressés avec un immense profit à la crédulité populaire et ont été plus redevables peut-être à cette habile manœuvre d'avoir gagné et gardé pour un temps l'avantage sur la vérité et le sens commun qu'à n'importe quelle demi-douzaine d'articles les plus accrédités dans tout le catalogue de l'imposture. Si un homme s'était tenu sur le pont de Londres à appeler les passants à gorge déployée pour les inviter à se joindre à Lord George Gordon, fût-ce même pour un objet incompris de tout le monde, ce qui lui aurait donné un charme particulier, il est probable qu'il aurait pu faire une vingtaine de prosélytes en un mois. Si tous les zélés protestants avaient été publiquement pressés de se joindre à une association ayant pour but avoué de chanter un hymne ou deux dans l'occasion, d'entendre quelques discours médiocres et en dernier lieu de pétitionner au Parlement afin qu'il n'y passât pas d'acte pour l'abolition des lois pénales contre les prêtres catholiques romains, de la pénalité de l'emprisonnement perpétuel porté contre ceux qui élevaient les enfants dans la voie catholique et de l'interdiction de tous les membres de l'Église romaine désormais inhabiles à posséder des biens immeubles dans le Royaume-Uni par acquet ou par héritage, toutes ces matières étrangères aux occupations et au goût des masses n'auraient peut-être pas ému une centaine de gens. Mais lorsque des bruits vagues coururent au dehors que, dans cette association protestante, un pouvoir occulte essayait ses forces contre le gouvernement pour de grands desseins indéterminés, lorsque l'air fut rempli de sourdes rumeurs au sujet d'une confédération des puissances papistes pour dégrader et asservir l'Angleterre, établir une inquisition à Londres et convertir les barrières du marché de Smithfield en bûchers et en chaudières, lorsque des terreurs et des alarmes que personne ne comprenait furent répandues à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur du Parlement par un enthousiaste qui ne les comprenait pas lui-même, lorsqu'enfin d'antiques fantômes qui avaient été couchés tranquillement depuis des siècles dans leurs tombeaux furent évoqués pour obséder les gens ignorants et crédules, lorsque tout cela se fut machiné en quelque sorte dans les ténèbres, que des invitations secrètes de se joindre à la grande association protestante pour la défense de la religion, de la vie et de la liberté furent semées sur la voie publique, jetées sous les portes des maisons, glissées à l'intérieur des appartements par les fenêtres, fourrées dans les mains des passants la nuit, lorsqu'elles étincelèrent à chaque muraille et brillèrent sur chaque poteau, sur chaque pilier, au point que le bois et les pierres paraissaient infectés de la fièvre commune, excitant tous les hommes à se réunir en aveugle pour résister sans savoir à quoi, sans savoir pourquoi, alors la folie se propagea sans obstacle et bientôt, croissant de jour en jour, l'association présenta une force de 40 000 membres. Du moins, c'est le chiffre déclaré au mois de mars 1780 par Lord George Gordon, son président. Qu'il fût exact ou non, peu de gens le surent ou se soucièrent de s'en assurer. Elle n'avait jamais fait de démonstration publique, on ne l'avait jamais vue. Il y avait même encore des personnes qui ne voulaient y voir qu'une pure création de son cerveau détraqué. Il était habitué à parler longuement à des multitudes, stimulé à ce qu'on pouvait croire par certains troubles qui avaient réussi en Écosse l'année précédente sur le même sujet. Membre de la Chambre des communes, on le regardait comme un cerveau brûlé qui attaquait tous les partis sans être d'aucun et ne jouissait pas d'une grande considération. On savait qu'un certain mécontentement régnait au dehors, il y en a toujours. Lord George Gordon s'était fait une habitude de s'adresser au peuple par des placards, des discours, des pamphlets sur d'autres questions déjà. Rien n'était venu en Angleterre de ces tentatives passées en Écosse et on n'appréhendait rien de celles-là. Tel qu'il vient de se montrer au lecteur, tel il avait paru de temps en temps devant le public qu'il avait oublié le lendemain lorsque soudainement, comme on le voit dans ses pages, après une lacune de 5 longues années, sa personne et ses actes commencèrent à s'imposer vers cette période à la connaissance de milliers de gens qui s'étaient mêlés à la vie active durant tout l'intervalle et qui n'étaient pourtant ni sourds ni aveugles aux événements contemporains, mais qui n'avaient jamais pensé à lui auparavant. « Milord, » dit Gashford à son oreille en venant le lendemain tirer de bonne heure les rideaux de son lit, « Milord, oui, qui est là? Qu'est-ce que c'est ?»«
L'horloge a sonné 9 heures, » répondit le secrétaire, les mains croisées avec humilité. « Vous avez bien dormi. J'espère que vous avez bien dormi. Si mes prières ont été exaucées, vos forces doivent être réparées par le repos. »«
À dire vrai, j'ai dormi d'un si profond sommeil, » dit Lord George en se frottant les yeux et regardant autour de la chambre, « que je ne me rappelle pas bien où nous sommes. »
« Milord, » dit Gashford avec un sourire.
« Oui, » répliqua son supérieur. « Oui, vous n'êtes donc pas un juif. »
« Un juif ! » s'écria le pieux secrétaire en reculant d'horreur.
« Je rêvais que nous étions des juifs, Gashford, vous et moi. Tous les deux, des juifs avec de longues barbes.
Le ciel nous en préserve, Milord. Autant vaudrait que nous fussions papistes.
Je suppose que cela vaudrait autant, » répliqua l'autre avec beaucoup de vivacité. « N'est-ce pas ? C'est bien votre avis, Gashford ?»«
N'en doutez pas !» cria le secrétaire d'un air de grande surprise.
« marmotta son maître, « oui, cela me semble assez raisonnable. »«
J'espère, Milord, » commença le secrétaire.
« Vous espérez, » répéta Lord George en l'interrompant. « Pourquoi dites-vous que vous espérez ? Il n'y a pas de mal à avoir de ces idées-là. »«
En rêve, » répondit le secrétaire.
« En rêve, non, et pendant la veille non plus. »«
Appelé, élu, fidèle. » dit Gashford, prenant la montre de Lord George qui était sur une chaise et paraissant lire d'une manière distraite la devise inscrite sur le cachet. Dans cet incident indifférent en lui-même, il n'y avait rien, ce semble, qui dût attirer l'attention du maître. Ce n'était qu'une distraction sans but, qui ne valait pas la peine d'être remarquée, mais lorsque les mots furent proférés, Lord George, qui avait pris un ton impétueux, s'arrêta court, rougit et garda le silence. Feignant de ne s'être pas du tout aperçu de ce changement dans la conduite de son maître, l'astucieux secrétaire fit quelques pas à l'écart sous prétexte de relever la jalousie et revenant bientôt lorsque l'autre eut eu le temps de se remettre.
« La cause sainte, dit-il, marche bravement, Milord. Je n'ai pas été oisif, même cette nuit. J'ai jeté 2 affiches avant d'aller me coucher et toutes ces 2 ont disparu ce matin. » Personne dans la maison n'en a soufflé mot, quoique j'aie été en bas une grande demi-heure. Elles nous vaudront 1 ou 2 recrues, je gage, et qui sait s'il n'y en aura pas beaucoup plus grâce à la bénédiction que le ciel peut répandre sur vos efforts inspirés.
C'est une fameuse idée que nous avons eue là dans le principe, répliqua Lord George. Une fameuse idée, et qui a rendu d'excellents services en Écosse. Elle était bien digne de vous. Vous me rappelez, Gashford, que je ne dois pas lambiner quand la vigne du Seigneur est menacée de destruction et qu'elle se voit en danger d'être foulée aux pieds des papistes. Faites sceller les chevaux dans 1 demi-heure, debout et à l'œuvre. »
Il avait en parlant ainsi la figure très colorée et un tel accent d'enthousiasme que le secrétaire crut inutile de rien ajouter et se retira.
« Il a rêvé qu'il était juif, » dit-il d'un air pensif lorsqu'il ferma la porte de la chambre à coucher. « Il pourrait bien en venir là avant de mourir. C'est assez vraisemblable. Ma foi, on verra plus tard, et pourvu que je n'y perde rien, je ne dis pas que cette religion ne me conviendrait point autant qu'une autre. Il y a des gens riches parmi les juifs, et puis c'est si ennuyeux de se faire la barbe. Oui, ça me convient assez. Quant à présent, toutefois, nous devons être chrétiens dans l'âme. Notre devise prophétique s'accommodera à toutes les croyances tour à tour. C'est ce qui me console. »
En réfléchissant sur cette source de consolation, il se rendit au salon et sonna pour le déjeuner. Lord George fut promptement habillé, sa toilette était assez simple pour n'être pas longue à faire, et comme il n'était pas moins sobre dans ses repas que dans son costume puritain, il eut bientôt expédié sa part. Mais le secrétaire, moins négligent des bonnes choses de ce monde ou plus attentif à soutenir sa force et son entrain en faveur de la cause protestante, ne cessa pas de manger, de boire en conscience jusqu'à la dernière minute. Il lui fallut 3 ou 4 avertissements de John Grubby avant qu'il pût se résoudre à s'arracher aux abondantes tentations de la table de M. Willett. Enfin, il descendit l'escalier en essuyant sa bouche graisseuse et après avoir payé la note de John Willett, il grimpa sur sa selle. Lord George, qui s'était promené de long en large devant la maison en se parlant à lui-même avec des gestes animés, monta à cheval et, répondant
à la révérence cérémonieuse du vieux John Willett, aussi bien qu'aux salutations d'adieu d'une douzaine de flâneurs que la nouvelle d'un vrai lord en chair et en os, prêt à quitter l'arbre de mai, avait rassemblé autour du porche, il s'éloigna avec son monde, le robuste John Grubby formant l'arrière-garde. Si John Willett avait trouvé, la veille au soir, que Lord George Gordon avait l'air d'un grand seigneur assez fantasque, ce fut bien autre chose ce matin-là. Perché tout droit comme une pique sur une rossinante, avec ses longs cheveux plats pendillant autour de sa figure et voltigeant au vent, tous ses membres roides et pointus, ses coudes collés de chaque côté d'une façon disgracieuse, et tout son corps cahoté et secoué à chaque mouvement des pieds de son cheval, c'était bien le personnage le plus gauche et le plus grotesque qu'on pût voir. Au lieu de cravache, il avait à la main une grande canne à pomme d'or, aussi haute que celle que portent aujourd'hui les laquais, et ses diverses évolutions dans le maniement de cette arme pesante, tantôt droite devant sa figure comme un sabre de cavalerie, tantôt sur son épaule comme un mousquet, tantôt entre son doigt et le pouce, et toujours de l'air le plus maladroit du monde, ne contribuait pas peu à lui donner un extérieur ridicule. En pesé, maigre, solennel, habillé en dépit de la mode et déployant avec ostentation, soit à dessein, soit par pur hasard, toutes les singularités de son port, de ses gestes et de sa tenue, toutes les qualités naturelles et artificielles qui le distinguaient des autres hommes, il aurait excité le rire de l'observateur le plus grave. Jugez s'il excita les sourires et les chuchotements railleurs qui saluèrent son départ de l'auberge de l'Arbre de Mai. Pour lui, sans se douter le moins du monde de l'effet qu'il avait produit, il trotta à côté de son secrétaire, se parlant à lui-même presque tout le long de la route, jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à 1 ou 2 miles de Londres. Là, de temps en temps, ils rencontrèrent quelques passants qui le connaissaient de vue et qui le montra à quelque autre, s'arrêtant peut-être pour le considérer ou pour crier par plaisanterie ou autrement « Hourra, Jordi, pas de papisme !» Il ôtait alors gravement son chapeau et saluait. Quand on eut atteint la ville et qu'on chevaucha par les rues, les reconnaissances devinrent plus fréquentes. Quelques-uns riaient, quelques-uns sifflaient, quelques-uns tournaient la tête et souriaient, quelques-uns demandaient avec étonnement qui c'était, quelques-uns couraient le long du trottoir après lui et l'applaudissaient. Lorsque cela arrivait au milieu d'un embarras de chariots, de chaises et de voitures, il s'arrêtait tout d'un coup et, ôtant son chapeau, il criait « Gentlemen, pas de papisme !» Les gentlemen répondaient à ce cri par 3 salves de « Hourra !» bien nourris, et puis ils continuaient d'avancer avec une vingtaine des plus déguenillés qui suivaient à la queue de son cheval et poussaient des cris sauvages à plein gosier. Et les vieilles dames donc, car il y avait un grand nombre de vieilles dames dans les rues et elles le connaissaient toutes. Quelques-unes d'entre elles, non pas celles du plus haut rang, mais celles qui vendaient du fruit dans des inventaires ou qui portaient des fardeaux, faisaient claquer leurs mains ridées et poussaient un cri aigu, perçant, essoufflé « Hourra, milord !» D'autres agitaient leurs mains ou leurs mouchoirs, ou bien elles secouaient leurs éventails et leurs parasols, ou bien elles ouvraient leurs fenêtres et criaient précipitamment à ceux de l'intérieur de venir voir. Toutes ces marques d'estime populaire, il les recevait avec une profonde gravité et un respect profond, saluant très bas, et si souvent que son chapeau n'était presque jamais sur sa tête, et regardant les maisons devant lesquelles il passait de l'air d'un homme qui faisait une entrée triomphale, mais qui n'en était pas plus fier pour cela. Ils chevauchèrent de la sorte, John Grubby en ressentait un dégoût extrême, inexprimable, tout le long de Whitechapel, de Leadenhall Street, de Cheapside et de Saint-Paul. En arrivant près de la cathédrale, il fit halte, parla à Gashford et, regardant en haut le dôme superbe, il secoua la tête comme s'il disait « L'église est en danger ». C'est pour le coup que les spectateurs serraillèrent le gosier, puis il continua de nouveau sa route, au milieu des acclamations furibondes de la populace, qu'il saluait plus bas que jamais. Il s'avança ainsi par le Strand, Swallow Street, Oxford Road et de là jusqu'à sa maison, dans Welbeck Street, près Cavendish Square, où il fut accompagné par une douzaine de traînards dont il prit congé sur les marches avec ce bref adieu. « Gentlemen, pas de papisme, bonjour, Dieu vous bénisse !» Comme on s'était attendu à une allocution plus substantielle, on l'accueillit avec quelque déplaisir en criant « Un speech, un speech !» et il allait faire droit à leur demande si John Grouby, en faisant sur eux une furieuse charge avec les chevaux qu'il menait à l'écurie, n'eût déterminé ses braillards à se disperser dans les champs voisins, où ils se mirent tout de suite à jouer à pile ou face, à la fossette, à pair ou non, à des combats de chiens et autres récréations protestantes. Dans l'après-midi, Lord George sortit de nouveau, vêtu d'un habit de velours noir, pantalon large et gilet écossais du clan de Gordon, le tout de la même coupe quakeresse, et sous ce costume, qui lui donnait un air 20 fois plus étrange et plus singulier qu'auparavant, il alla à pied à Westminster. Gashford, pendant son absence, resta à la maison et il y travaillait encore lorsque, peu de temps après la brune, John Grouby vint lui annoncer un visiteur. « Faites-le entrer, » dit Gashford. « Ici, entrez, » dit John en grognant à quelqu'un qui était dehors. « Vous êtes protestant, n'est-ce pas ?»« Je vous en réponds, » répliqua une voix forte et bourrue. « Ça se voit bien, » dit John Grouby, « je vous aurais reconnu pour un protestant n'importe où. » Cette remarque faite, il introduisit le visiteur, se retira et ferma la porte. L'homme qui se trouvait maintenant en face de Gashford était un personnage trapu, ramassé, avec un front bas et fuyant, une tignasse semblable au poil d'un caniche et des yeux si petits et si proches l'un de l'autre que son nez brisé paraissait seul empêcher leur rencontre et leur fusion en un œil de grandeur ordinaire. Une cravate de couleur sombre, tortillée autour de son cou comme une corde, laissait voir ses grosses veines gonflées et saillantes, comme si elles regorgeaient de malice et de méchanceté. Son habillement de velours râpé, terni, était couleur de rouille, d'un noir blanchâtre, semblable aux cendres d'une pipe ou d'un feu de charbon éteint depuis 24 heures, souillé d'ailleurs de marques nombreuses d'anciennes débauches et exhalait encore une forte odeur de cabaret. Au lieu de boucles à ses genoux, il portait des brides inégales de ficelles d'emballage et dans ses mains sales, il tenait un bâton noueux dont le gros bout sculpté offrait une grossière image de son ignoble figure. Tel était le visiteur qui ôta son chapeau à 3 cornes en présence de Gashford et attendit, en jetant des regards de côté, qu'on fît attention à lui.
« Ah, c'est vous, Dennis !» cria le secrétaire. « Asseyez-vous !» « Je viens de voir Milord là-bas, » cria l'homme en lançant son pouce dans la direction du quartier dont il parlait, « et il m'a dit qu'il dit, si vous n'avez rien à faire, Dennis, allez chez moi, vous causerez avec maître Gashford. Naturellement, je n'avais rien à faire, vous savez, ce n'est pas l'heure où je travaille. Je prenais l'air quand j'ai vu Milord, voilà tout ce que je faisais. Je prends l'air le soir, comme les hiboux, maître Gashford. Et quelquefois aussi, pendant le jour, n'est-ce pas ?» dit le secrétaire. Quand vous sortez en grande compagnie, vous savez. Ah, rugit le gaillard en frappant sa jambe, parlez-moi de maître Gashford pour savoir manier la plaisanterie. Il n'a pas son pareil à Londres ni à Westminster. Ce n'est pas pour mépriser Milord, mais ce n'est qu'un imbécile auprès de vous. Ah, vous avez raison, quand je sors en grande cérémonie, avez-vous votre carrosse, dit le secrétaire, et votre chapelain et le reste? « Vous me faites mourir !» cria Dennis avec un autre éclat de rire. « Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, maître Gashford ? » demanda-t-il d'une voix un peu rauque. « Sommes-nous sur le point de recevoir l'ordre de démolir une de leurs chapelles papistes, ou bien quoi ?»« Chut !» dit le secrétaire en laissant errer sur sa figure un faible sourire. « Chut ! Comme vous y allez, Dennis ! Notre association, vous savez, ne veut que la paix et le respect de la loi !» « Connu, connu, Dieu vous bénisse !» répliqua l'homme en soulevant sa joue avec sa langue. « Je n'y suis entré que pour ça, n'est-ce pas ?»« Sans doute, » dit Gashford, souriant comme avant. Dennis, à ces mots, fit un nouvel éclat de rire et se frappa la jambe encore plus fort. Il riait aux larmes et s'essuya les yeux avec le coin de sa cravate en criant « Maître Gashford n'a pas son pareil dans toute l'Angleterre, oh là là !» Lord George et moi... « Nous parlions de vous la nuit dernière, » dit Gashford après une pause. « Il dit que vous êtes un garçon très zélé. »« Oui, je le suis, » répondit le bourreau. « Et que vous haïssez les papistes de tout cœur. »« Si je les hais !» Et il confirma son dire par un bon gros juron. « Regardez ici, maître Gashford, » dit le sacripant en plaçant son chapeau et son bâton sur le parquet et frappant lentement la pomme d'une de ses mains avec les doigts de l'autre. « Remarquez !» Je suis un officier constitutionnel qui travaille pour vivre et qui fait sa besogne honorablement. Est-ce vrai? Est-ce faux?
C'est incontestable. Très bien, attendez une minute. Ma besogne est solide, protestante, constitutionnelle. Une besogne anglaise. Est-ce vrai, est-ce faux? Il n'y a pas l'ombre d'un doute à cela. Voici ce que dit le Parlement qu'il dit. Si un homme, une femme ou un enfant fait quelque chose de contraire à un certain nombre de nos lois, combien pouvons-nous avoir actuellement, maître Gashford, de lois qui condamnent à être pendus? 50? Je ne sais pas exactement combien, répliqua Gashford en se penchant en arrière sur sa chaise et en bâillant. Je sais seulement que le nombre en est considérable. Bien, mettons 50. Le Parlement dit qu'il dit « Si un homme, une femme ou un enfant fait quelque chose contre l'un de ces 50 actes, l'homme, la femme ou l'enfant sera exécuté par Denis. » George III intervint lorsque cela monta à un chiffre trop élevé à la fin de la session et dit « Il y en a trop pour Denis, je vais en garder la moitié pour moi et Denis en aura la moitié pour sa part. » Et quelquefois, il m'en jette un de plus par-dessus le marché, comme il y a 3 ans, quand j'eus Mary Jones, une jeune femme de 19 ans, que je menais à Tyburn avec son enfant au sein. Elle fut exécutée pour avoir pris une pièce d'étoffe au comptoir d'une boutique de Ludgate Hill. Elle était en train de la remettre quand le marchand l'aperçut. Elle n'avait jamais fait de mal auparavant et n'avait essayé cette fois que parce que son mari, enlevé par la presse depuis 3 semaines, l'avait laissée réduite à mendier avec 2 jeunes enfants, comme depuis ça fut prouvé dans le procès. Ah, qu'est-ce que ça fait? Avant tout, les lois et coutumes de l'Angleterre, c'est la gloire de notre pays. N'est-ce pas, maître Gashford? Certainement, dit le secrétaire. Et dans l'avenir, poursuivit le bourreau, si nos petits-fils pensent à l'époque de leur grand-père et trouvent tout ça changé, ils diront... C'était ça, un temps. Et nous n'avons fait que dégringoler depuis. N'est-ce pas qu'ils diront ça, maître Gashford?
Je n'en doute pas, répliqua le secrétaire.
Eh bien donc, voyez un peu, dit le bourreau, si ces papistes s'emparent du pouvoir et qu'ils se mettent à bouillir et rôtir les gens au lieu de les pendre, que devient ma besogne? S'ils touchent à ma besogne qui fait partie de tant de lois, que deviennent les lois en général? Que devient la religion? Que devient le pays? Êtes-vous allé parfois à l'église, maître Gashford?
Parfois, répéta le secrétaire avec quelque indignation, sans doute.
Bien, dit le sacripant, c'est comme moi, je suis allé aussi une ou deux fois, en comptant celle où j'ai été baptisé. Si bien donc que lorsqu'on vint me dire qu'on allait supplier le Parlement, et que je pensais au grand nombre des nouvelles lois de pendaison qu'il faisait à chaque session, je me suis considéré moi-même comme supplié par la même occasion. Parce que, vous comprenez, maître Gashford, continua-t-il, en reprenant son bâton et l'agitant d'un air de menace, je n'ai pas envie qu'on vienne toucher à ma besogne protestante, ni rien changer à cet état de choses protestant, et je ferai tout ce que je pourrai pour l'empêcher. Je n'ai pas envie que les papistes viennent se mêler de mes affaires, à moins qu'ils n'aient recours à moi pour se faire exécuter d'après la loi. Je n'ai pas envie qu'on fasse ni bouillir, ni rôtir, ni frire. Je veux qu'on se borne à pendre. Milord peut bien dire que je suis un garçon zélé. Pour soutenir le grand principe protestant d'avoir des pendaisons à gogo, à la bonne heure, je saurai, et il frappa de son bâton le parquet, brûler, combattre, tuer, faire tout ce que vous me commanderez, si hardi et si diabolique que ce soit, quand je devrai, en fin de compte, devenir de pendeur pendu. Voilà maître Gashford.
Il avait accompagné comme de raison cette fréquente prostitution du noble mot de protestant au plus vil dessein, en vomissant dans une sorte de frénésie une 20aine au moins des plus terribles jurons, après quoi il essuya sa figure échauffée sur sa cravate et se mit à crier
« Pas de papisme, je suis un homme religieux, nom de Dieu !»
Gashford s'était penché en arrière sur sa chaise, le regardant avec des yeux si creux et si ombragés par ses épais sourcils, que pour ce qu'envoyait le bourreau, l'autre eût aussi bien pu être complètement aveugle. Il resta encore un peu de temps à sourire en silence, puis il dit d'une manière lente et distincte « Je vois décidément que vous êtes un garçon zélé, Denis, un précieux sujet,
l'homme le plus solide que je connaisse dans nos rangs. Mais il faut vous calmer. Il faut être pacifique, légal, doux comme un mouton. N'oubliez pas cela.
C'est bon, c'est bon. Nous verrons, maître Gashford, nous verrons. Vous n'aurez pas à vous plaindre de moi, répliqua l'autre en hochant la tête.
« J'y compte bien, » dit le secrétaire du même ton plein de douceur et avec le même accent oratoire. « Nous aurons, à ce que nous pensons, vers le mois prochain ou dans le mois de mai, quand ce bill en faveur des papistes viendra devant la chambre, à rassembler notre corps tout entier pour la première fois. Milord a l'idée de nous faire faire une procession dans les rues, simplement pour nous montrer en force et pour accompagner notre pétition jusqu'à la porte de la Chambre des communes.
« Plus tôt ça se fera, mieux ça voudra !»
dit Dennis avec un autre juron. Il nous faudra marcher par division. Notre nombre sans cela serait trop considérable et je crois pouvoir me hasarder à dire, reprit Gashford en affectant de ne pas avoir entendu l'interruption, quoique je n'ai pas d'instruction directe à ce sujet, que Lord George a l'idée que vous feriez un excellent chef pour l'une de ces bandes. Et je n'en doute pas pour ma part.
Vous n'avez qu'à essayer, dit le coquin en clignant de l'œil d'une manière atroce. « Vous auriez du sang-froid, je le sais, » poursuivit le secrétaire, toujours souriant et toujours faisant manœuvrer ses yeux de telle sorte qu'il pouvait l'observer de près sans se laisser voir lui-même.
« Vous garderiez bien votre consigne et vous seriez d'une modération parfaite. Vous ne mèneriez pas votre colonne au danger, j'en suis certain.
« Je la mènerai, maître Gashford !»
Le bourreau allait gâter tout quand Gashford se releva en sursaut, mit son doigt sur ses lèvres et feignit d'écrire juste au moment où John Grubby ouvrait la porte.
« Oh !» dit John en passant la tête, « voilà encore un protestant !»«
Faites-le attendre ailleurs, John !» cria Gashford de sa voix la plus aimable. « Je suis occupé quant à présent !»
Mais John avait amené à la porte le nouveau visiteur, qui entra sans façon en même temps que Gashford donnait cet ordre. Ce n'était ni plus ni moins que le corps, les traits, le grossier costume et l'air tapageur de Hugh.
Chapitre 38. Le secrétaire mit la main devant ses yeux pour les garantir de la clarté de la lampe et pendant quelques moments, il regarda Hugh en fronçant le sourcil, comme s'il se souvenait de l'avoir vu naguère, mais sans pouvoir se rappeler en quel lieu ni en quelle occasion. Son incertitude dura peu, car avant que Hugh eût prononcé un mot, il dit, en même temps que sa figure s'éclaircissait,
« Oui, oui, je me rappelle. C'est très bien. John, vous n'avez pas besoin de rester. Ne vous dérangez pas, Dennis. »«
Votre serviteur, maître, » dit Hugh quand Grubby eut disparu.
« Eh bien, mon ami, » répliqua le secrétaire de son ton le plus doux, « qu'est-ce qui vous amène ici ? Nous n'aurions pas par hasard oublié de payer notre écho. »
Hugh fit entendre un rire bref à cette plaisanterie et, mettant la main dans les poches de son gilet, il exhiba une des affiches, toute sale et toute crottée d'avoir passé la nuit dehors, la posa sur le pupitre du secrétaire après avoir commencé par la lisser et par effacer les rides qui s'y voyaient encore avec la lourde pomme de sa main.
« Vous n'avez oublié que ça, maître, et c'est tombé en bonne main, comme vous voyez. »«
Qu'est-ce que c'est que cela ?» dit Gashford en retournant l'affiche d'un air de surprise innocente. « Où vous êtes-vous procuré cela, mon bon garçon ? Qu'est-ce que cela signifie ? Je n'y comprends rien du tout. »
Un peu déconcerté de cet accueil, Hugh portait ses regards du secrétaire sur Dennis, qui s'était levé et se tenait debout aussi près de la table, en observant l'étranger à la dérobée. Il paraissait éprouver la plus grande sympathie pour ses manières et son extérieur. Se croyant suffisamment autorisé par cet appel muet, M. Dennis hocha trois fois la tête à son intention, comme confirmant le dire de Gashford.
« Non, il ne comprend rien du tout à ça. Je sais qu'il n'y comprend rien. Je jurerai qu'il ne comprend rien. »
Et cachant son profil à Hugh avec l'un des coins de sa cravate malpropre, il faisait des signes de tête et ricanait derrière cet écran comme s'il trouvait admirable la conduite discrète du secrétaire.
« Ça dit toujours bien à celui qui le trouvera de venir ici, n'est-ce pas ?» demanda Hugh. « Je ne suis pas un grand clerc, mais je l'ai montré à un ami et il m'a assuré que ça disait ça. »
« Oui, c'est positif. » répliqua Gashford en ouvrant des yeux aussi grands qu'une porte cochère. « Voici bien la plus drôle de chose que j'ai jamais vue de ma vie. Comment cela vous est-il tombé entre les mains, mon bon ami ? »
« Maître Gashford, dit le bourreau tout bas d'une voix étouffée, vous n'avez pas votre pareil dans tout Newgate. »
Soit que Hugues l'eût entendu ou qu'il eût vu à l'air de Dennis qu'on se moquait de lui, soit qu'il eût deviné de lui-même le manège de Gashford, il alla droit au but, brutalement, selon son habitude.
« Voyons, cria-t-il en étendant sa main et reprenant l'affiche, ne vous occupez point de ce papier, de ce qu'il dit ou de ce qu'il ne dit pas. » « Vous n'y comprenez rien, maître, ni moi non plus, ni lui non plus, » ajouta-t-il en lançant un coup d'œil à Dennis. « Personne de nous ne sait ce que ça signifie, ni d'où ça vient. C'est une affaire entendue. Tant il y a que je voudrais m'enrôler contre les catholiques. Je suis antipapiste et prêt à m'engager par serment. Voilà pourquoi je suis venu ici. »
« Couchez-le sur la liste, maître Gashford, » dit Dennis d'un air approbatif. C'est comme ça qu'on se met à la besogne, droit au but, sans barguigner et sans bavarder.
« À quoi se sert-il de tirer sa poudre au moineau, mon vieux ?» cria Hugues.
« Mes sentiments tout crachés, » répondit le bourreau. « Voilà un gaillard comme il m'en faut dans ma division, maître Gashford. Prenez son nom, monsieur, couchez-le sur la liste. Je veux bien être son parrain quand il faudrait, pour son baptême, faire un feu de joie des billets de la Banque d'Angleterre. »
Monsieur Dennis accompagna ces témoignages de confiance et d'autres compliments non moins flatteurs, d'une bonne tape sur le dos qu'il donna à Hugues et que celui-ci lui rendit sans se faire attendre.
« Ah bah le papisme, frère !» cria le bourreau. « Ah bah la propriété, frère !» répondit Hugues.
« Le papisme, le papisme !» dit le secrétaire avec son habituelle douceur.
« Tout ça, c'est la même chose !» cria Dennis. « Tout ça, c'est très bien !»
Le camarade a raison, maître Gashford, à bas tout le monde, à bas tout. Hourra pour la religion protestante, voilà le vrai moment, maître Gashford.
Le secrétaire les regarda tous les deux avec une expression de physionomie très favorable, tandis qu'il lâchait la bride à toutes ces démonstrations de leurs sentiments patriotiques, et il allait faire quelques remarques à haute voix quand Dennis s'avança vers lui et, lui couvrant la bouche de sa main, lui dit tout bas de sa voix rauque en lui poussant le coude.
« Mais tranchez pas trop avec lui du magistrat constitutionnel, maître Gashford. Il y a des préjugés populaires, vous savez, il pourrait bien ne pas aimer ça. Attendez qu'il soit plus intime avec moi. C'est un gaillard bien bâti, n'est-ce pas ?
Un robuste compère, en vérité.
Avez-vous jamais, maître Gashford, chuchota Dennis, avec l'espèce d'admiration sauvage et monstrueuse d'un cannibale affamé en regardant son intime ami, « Avez-vous jamais, » et alors il s'approcha plus près de l'oreille du secrétaire en cachant sa bouche de ses deux mains, « vu une gorge comme celle-là.
J'étais ici seulement les yeux. Quel col pour y passer la corde, maître Gashford !»
Le secrétaire acquiesça à cette opinion de la meilleure grâce qu'il put y mettre, car il y a de ces jouissances de connaisseurs qu'on ne peut guère simuler avec succès quand on n'est pas du métier. Et après avoir fait au candidat un petit nombre de questions peu importantes, il procéda à son enrôlement comme membre de la grande association protestante de l'Angleterre. Si quelque chose avait pu surpasser la joie que causa à M. Dennis l'heureuse conclusion de cette cérémonie, ça aurait été le ravissement avec lequel il reçut la déclaration que le nouveau membre ne savait ni lire ni écrire. Ces deux sciences étant, sacrebleu, dit M. Dennis, la plus grande malédiction qu'une société civilisée pût connaître et causant plus de préjudice aux émoluments professionnels et au profit du grand office constitutionnel qu'il avait l'honneur d'exercer que n'importe quels autres fléaux qui pouvaient se présenter à son imagination. L'enrôlement étant achevé dans les formes et Gashford ayant instruit à sa manière le néophyte des vues pacifiques et strictement légales du corps auquel il avait l'honneur d'appartenir, cérémonie pendant laquelle Dennis joua souvent du coude et fit à Gashford diverses grimaces remarquables, le secrétaire leur fit entendre qu'il désirait être seul. Ils prirent donc congé de lui sans délai et sortirent ensemble de la maison.
« Vous promenez-vous, frère ? » dit Dennis.
« Oui, répliqua Hugues, où vous voudrez. »«
Voilà ce qui s'appelle un bon camarade, » dit son nouvel ami. « Quel chemin allons-nous prendre ?
Voulez-vous que nous allions jeter un coup d'œil aux portes où nous devons faire un joli tapage avant qu'il soit longtemps ? Qu'en dites-vous, frère ?»
Hugues ayant accepté cette offre, ils s'en allèrent tout doucement à Westminster, où les deux chambres du Parlement étaient alors en séance. Se mêlant à la foule des carrosses, des chevaux, des domestiques, des porteurs de chaises, des porte-falots, des commissionnaires et des oisifs de tout genre, ils flânèrent aux alentours. Le nouvel ami de Hugues lui montra du doigt, d'une manière significative, les parties faibles de l'édifice, lui expliqua combien il était aisé de pénétrer dans le couloir et par là à la porte même de la Chambre des communes. Il lui fit voir enfin que lorsqu'ils marcheraient en masse, leurs rugissements et leurs acclamations seraient facilement entendus à l'intérieur par les membres du Parlement. Il ajouta beaucoup d'autres observations analogues, toutes reçues par Hugues avec un plaisir manifeste. Denis lui nomma aussi quelques-uns des lords et des membres de la Chambre des communes à mesure qu'ils entraient ou sortaient. Il lui dit s'ils étaient amis ou ennemis des papistes et il l'engagea à remarquer leurs livrées et leurs équipages, pour ne pas s'y tromper en cas de besoin. Quelquefois, il l'entraîna tout près de la portière d'un carrosse qui passait afin que l'autre pût voir la figure du maître à la lueur des réverbères. Bref, sous le double rapport des personnes et des localités, il prouva une telle connaissance de tout ce qui l'entourait qu'il fut évident pour Hugues que Denis avait fait souvent de cet endroit l'objet de ses études antérieures, comme effectivement, lorsque leur relation devint un peu plus confidentielle, ce dernier ne fit pas difficulté d'en convenir. Mais ce qu'il y avait dans tout cela de plus frappant, c'était le nombre de gens, jamais en groupe de plus de deux ou trois ensemble, qui semblaient se tenir cachés dans la foule pour le même motif. À la majeure partie de ces gens, un léger signe de tête ou un simple regard du compagnon de Hugues était un salut suffisant. Mais de temps en temps, un homme venait et s'arrêtait auprès de Denis dans la foule et sans tourner la tête ni paraître communiquer avec lui, lui disait un mot ou deux à voix basse, puis ils se séparaient comme des étrangers. Quelques-uns de ces hommes reparaissaient souvent d'une façon inattendue dans la foule tout près de Hugues et en passant lui serraient la main ou le regardaient d'un air farouche en plein visage, mais jamais ils ne lui parlaient, ni lui à eux, non, pas un mot. Une chose remarquable encore, c'est que quand il leur arrivait de se trouver là où il y avait presse et que Hugues baissait par hasard les yeux, il était sûr de voir un bras allongé sous le sien peut-être, ou peut-être par devant lui, pour jeter quelques papiers dans la main ou la poche d'un spectateur, puis se retirer si soudainement qu'il était impossible de dire à qui il appartenait. Hugues ne pouvait pas non plus, en lançant un rapide coup d'œil à la ronde, découvrir sur n'importe quelle figure la moindre confusion ni la moindre surprise. Souvent, il marchait sur un papier semblable à celui qu'il portait dans son sein, mais son compagnon lui disait à l'oreille de ne pas y toucher, de ne pas le relever, de ne pas même le regarder. Ils le laissaient donc sur le pavé et passaient leur chemin. Lorsqu'ils eurent ainsi rôdé dans la rue et dans toutes les avenues de l'édifice durant près de 2 heures, ils s'éloignèrent et son ami lui demanda ce qu'il pensait de ce qu'il venait de voir et s'il était prêt à quelque échauffourée dans le cas où l'on en viendrait là.
« Plus elle sera chaude, mieux ça voudra, » dit Hugues. « Je suis prêt à n'importe quoi. »«
Je suis également, » dit son ami, « et nous ne sommes pas les seuls. »
Alors ils se donnèrent une poignée de main avec un grand juron et nombre d'imprécations les plus terribles contre les papistes. Comme ils se sentaient altérés, Denis proposa de se rendre ensemble à la botte, où il y avait bonne compagnie et liqueur forte. Hugues ne s'étant pas fait prier, ils dirigèrent leurs pas de ce côté sans perdre de temps. Cette botte était un établissement public situé à l'écart, dans les champs, derrière l'hôpital des enfants trouvés. Lieu très solitaire à cette époque et tout à fait désert après la brune. La taverne était à quelque distance de toute grande route. On n'en approchait que par une ruelle étroite et sombre. Aussi Hugues fut-il très surpris de trouver là beaucoup de gens qui buvaient et faisaient bombance. Il fut encore plus surpris de retrouver parmi ces gens-là toutes les figures qui avaient attiré son attention dans la foule. Mais son compagnon, l'ayant prévenu tout bas avant d'entrer, qu'il serait de mauvais genre à la botte de faire attention à la société, il garda ses réflexions pour lui et n'eut pas l'air de connaître âme qui vive. Avant de porter à ses lèvres la liqueur qu'on leur avait servie, Denis porta à haute voix la santé de Lord George Gordon, président de la grande association protestante. Hugues fit raison à ce toast avec le même enthousiasme. Un joueur de violon qui se trouvait là et qui avait l'air de remplir les fonctions de ménestrel officiel de la compagnie racla immédiatement un branle d'Écosse et il y mit tant d'entrain que Hugues et son ami, qui avaient commencé par boire, se levèrent de leur siège comme d'un commun accord et, à la grande admiration des hôtes réunis, exécutèrent une improvisation chorégraphique, la danse de pas de papisme. Thank you.
Chapitre 39. Les applaudissements que la danse exécutée par Hugues et son nouvel ami arracha aux spectateurs de la botte n'avaient pas encore cessé, et les deux danseurs étaient encore tout haletants de leur gambade, qui avait été d'un caractère des plus violents, quand la compagnie reçut du renfort. Les nouveaux venus, composés d'un détachement des Bulldogs unis, furent reçus avec des marques très flatteuses de distinction et de respect. Le chef de cette petite troupe, car il n'était que trois en le comptant, était notre ancienne connaissance, M. Tapertit, qui semblait, physiquement parlant, être devenu plus petit avec les années, particulièrement des jambes. Jamais vous n'en avez vu de plus fluette, mais, par exemple, au point de vue moral, en dignité personnelle, en estime de soi-même, il avait acquis des proportions gigantesques. Il ne fallait pas avoir l'esprit bien observateur pour découvrir ses sentiments chez l'ex-apprenti, car non seulement il les proclamait de manière à faire impression et à éviter toute méprise par sa majestueuse démarche et son œil flamboyant, mais en outre, il avait trouvé un moyen frappant de révélation dans son nez retroussé, qui semblait affecter pour toutes les choses de la terre le plus profond dédain, et ne voulait entrer en communion qu'avec le ciel, sa patrie. M. Tapertit, comme chef ou capitaine des Bulldogs, était accompagné de ses deux lieutenants. L'un, le long camarade de sa vie juvénile, l'autre, un chevalier, apprenti autant jadis, Marc Gilbert, engagé anciennement chez Thomas Curzon de la Toison d'Or. Ces gentlemen, comme lui-même, étaient maintenant émancipés de leur esclavage d'apprentis et servaient en qualité d'ouvriers. Mais c'était dans leur humble émulation de son grand exemple des esprits hardis, audacieux, et ils aspiraient à un rôle distingué dans les grands événements politiques. De là, leur alliance avec l'Association protestante d'Angleterre, sanctionnée par le nom de Lord George Gordon. De là aussi, leur visite actuelle à la botte. « Gentlemen, » dit M. Tapertit en ôtant son chapeau comme fait un grand général qui s'adresse à ses troupes, « bonne rencontre. Milord me fait ainsi qu'à vous l'honneur de nous envoyer ses compliments personnels. »« Vous avez vu Milord aussi, n'est-ce pas ?» dit Dennis. « Moi, je l'ai vu dans l'après-midi. » Mon devoir m'appelait au couloir de la chambre après la fermeture de notre boutique. « Et c'est là que je l'ai vu, monsieur, » répliqua M. Tapertit en même temps qu'il s'assit avec ses lieutenants. « Comment vous portez-vous ? » « À merveille, maître, à merveille, » dit le Luron. « Voici un nouveau frère, inscrit en règle noire sur blanc par maître Gashford. Il fera honneur à la cause, c'est un vrai sans souci, une artère de mon cœur. Regardez-moi ça ! N'est-ce pas qu'il a l'air d'un homme qui fera l'affaire ? Qu'en dites-vous » cria-t-il en donnant une tape à Hugues sur le dos. « Que j'en ai l'air, ou pas l'air, » dit Hugues, dont le bras fit un moulinet d'ivrogne, « je suis l'homme qu'il vous faut. Je hais les papistes, tous, du premier jusqu'au dernier. Ils me haïssent, et je les hais. Ils me feront tout le mal qu'ils peuvent, et je leur ferai tout le mal que je pourrai. Hurrah !»« Et eût-il jamais... » dit Denis en regardant autour de la salle, lorsque l'écho de la voix pétulante de Hugues se fut évanoui. « Avez-vous jamais vu pareil gaillard ? Tenez, vous me croirez si vous voulez, frère, mais maître Gashford aurait pu courir 100 000 et enrôler 50 hommes ordinaires qu'il n'aurait pas valu celui-ci. » La majeure partie de la société souscrivit implicitement à cette opinion et témoigna sa confiance dans Hugues par des signes de tête et des coups d'œil très significatifs. M. Tapertit, de son siège, le contempla longtemps en silence, comme s'il suspendait son jugement, puis il s'approcha de lui un peu plus près pour l'examiner plus soigneusement, puis alla tout contre lui et, le prenant à part dans un coin sombre, « Dites-moi, » demanda-t-il en commençant son interrogatoire d'un front soucieux, « ne vous ai-je pas déjà vu quelque part ?»«
C'est possible, » dit Hugues, de son ton indifférent. « Je ne sais pas. Je n'en serais pas étonné. »«
Non, mais c'est chose facile à établir, » répliqua Sim. « Regardez-moi. M'avez-vous déjà vu ? Il est probable que vous ne l'oublieriez pas. Vous savez, si vous en aviez eu l'occasion, regardez-moi. N'ayez pas peur. Je ne vous ferai aucun mal. Regardez-moi bien. Voyons, fixement. » La manière encourageante dont M. Tapertit fit cette demande, en y joignant l'assurance que l'autre ne devait pas avoir peur, amusa Hugues énormément,
à ce point même qu'il ne vit rien du tout du petit homme qui était devant lui quand il ferma les yeux dans un accès de fou rire qui secouait ses larges flancs, et finit par en avoir mal aux côtes.
« Allons !» dit M. Tapertit, qui commençait à s'impatienter de se voir traité avec cette irrévérence. « Me reconnaissez-vous, mon gars ?»«
Non !» cria Hugues. « Non, mais je voudrais bien vous connaître. »
« Et moi, je gagerai une pièce de 7 shillings, » dit M. Tapertit en se croisant les bras et le regardant en face, les jambes très écartées et solidement plantées sur le sol, « que vous avez été palefrenier à l'arbre de mai. »
Hugues ouvrit les yeux à ces mots et le regarda d'un air fort surpris.
« Et vous l'étiez, en effet, » dit M. Tapertit en poussant Hugues avec une condescendance enjouée. « Mes yeux n'ont jamais trompé que les jolies femmes. Ne me connaissez-vous pas maintenant ?»«
Mais ne seriez-vous pas, » balbutia Hugues. « Ne seriez-vous pas, » dit M. Tapertit.
« Vous n'en êtes donc pas encore, bien sûr. Vous vous rappelez Georges Varden, n'est-ce pas ?»
Certainement, Hugues se le rappelait. Et il se rappelait Dolly Varden aussi. Mais il ne le lui dit point.
« Vous rappelez-vous que j'allais là-bas avant d'avoir achevé mon apprentissage et que j'y demandais des nouvelles d'un vagabond qui avait filé, laissant son père inconsolable, en proie aux plus amères émotions et tout ce qui s'ensuit, vous le rappelez-vous » dit M. Tapertit.
« Sans doute, je me le rappelle, » cria Hugues. « C'est là que je vous ai vu. »«
C'est là que vous m'avez vu, » dit M. Tapertit. « Oui, certainement, c'est là que vous m'avez vu. » On n'y ferait pas grand-chose de bon sans moi. Ne vous rappelez-vous pas que je vous crus l'ami du vagabond et qu'à ce propos, j'étais au moment de vous chercher querelle, puis qu'ayant reconnu que vous le détestiez plus que du poison, je voulus boire un coup avec vous. Ne vous rappelez-vous pas cela ?
Si fait ! Cria Hugues.
Bien. Et êtes-vous toujours dans les mêmes idées ? Dit M. Tapertit.
Oui, rugit Hugues.
« Vous parlez en homme, » dit M. Tapertit, « et je vous donnerai une poignée de main. »
Après ce langage conciliant, le geste suivi de près la parole, Hugues répondit avec empressement aux avances de l'autre et la cérémonie s'accomplit avec des démonstrations de franche cordialité. « Il se trouve, » dit M. Tapertit en regardant à la ronde toute la compagnie, « que le frère, je ne sais pas son nom, et moi, « nous sommes de vieilles connaissances. Vous n'avez plus jamais entendu parler de ce drôle, je suppose, hein ?»«
Pas un mot, » répliqua Hugues. « Je ne le désire pas. Je ne crois pas que jamais j'en entende parler. Il est mort depuis longtemps, j'espère. »«
Espérons en faveur de l'humanité en général et du bonheur de la société, espérons qu'il est mort, » dit M. Tapertit en frottant ses jambes avec la paume de sa main qu'il considérait de temps en temps dans l'intervalle. « Votre autre main est-elle un peu plus propre ?»«
C'est la même chose. Bien, je vous dois une autre poignée de main. Nous la tiendrons pour donner, si vous n'y voyez pas d'objection. »
Hugues se mit à rire de rechef et il se livra si complètement à sa folle humeur que ses membres semblèrent se disloquer et tout son corps courir le risque d'éclater par morceaux. Mais M. Tapertit, loin d'accueillir cette extrême gaieté de mauvaise grâce, daigna la prendre en très bonne part, et même il s'associa autant que le pouvait un personnage aussi grave et d'un rang aussi élevé, qui sait la réserve et le décorum qu'on doit s'attendre à voir gardé en toute occasion par un homme qui occupe une haute position. M. Tapertit ne se borna pas là, comme eussent fait beaucoup de personnages publics, mais ayant appelé ses deux lieutenants, il leur présenta Hugues avec les plus grandes recommandations, déclarant que, par le temps qui courait, c'était un homme qui ne pouvait être trop bien traité. En outre, il lui fit l'honneur de remarquer que c'était une acquisition dont les bulldogs unis eux-mêmes seraient fiers. Et après s'être assuré en le sondant qu'il était tout prêt à entrer volontiers dans la société, car Hugues n'avait pas l'ombre d'un scrupule et il se serait ligué ce soir-là avec n'importe quoi ou n'importe qui pour n'importe quel dessein, il voulut que les préliminaires indispensables fussent accomplis sur place. Cet honneur rendu à son grand mérite n'enchanta personne plus que M. Dennis, comme il le proclama lui-même, avec force juron des plus satisfaisants, et véritablement l'assemblée tout entière en ressentit une satisfaction infinie.
Faites de moi ce que vous voudrez !» cria Hugues en agitant en l'air le pot qu'il avait déjà vidé plus d'une fois. « Imposez-moi le service quelconque qui vous plaira. Je suis votre homme. Je remplirai mon devoir. Voici mon capitaine. Voici mon chef. Qu'il m'en donne l'ordre, je combattrai à moi seul tout le Parlement où je mettrai une torche allumée au trône même du roi. »
En disant cela, il frappa M. Tapertite sur le dos avec une telle violence que son petit corps en parut réduit à sa plus simple expression, puis il recommença ses éclats de rire à réveiller en sursaut dans leur lit les enfants trouvés du voisinage. Le fait est que l'idée du singulier patronage auquel il se trouvait accouplé avait pour lui quelque chose de si comique que son rude cerveau ne pouvait s'en détacher. La simple circonstance d'avoir pour patron ce grand homme qu'il eût écrasé d'une main s'offrit à ses yeux sous des couleurs si excentriques et si fantasques qu'une sorte de gaieté sauvage le possédait tout entier et subjuguait tout à fait sa brutale nature. Il réitéra ses éclats de rire, porta 100 toasts à M. Tapertite, se déclara bulldog jusque dans la moelle des os et jura de lui être fidèle jusqu'à la dernière goutte de sang qui coulait dans ses veines. M. Tapertite reçut tous ces compliments comme chose fort naturelle, peut-être un peu flatteuse dans leur genre, mais dont on ne devait attribuer l'exagération qu'à son immense supériorité. Son aplomb plein de dignité ne fit que réjouir Hugues encore davantage. En un mot, le géant et le nain contractèrent une amitié qui promettait d'être durable, car l'un regardait le commandement comme son droit légitime et l'autre considérait l'obéissance comme une exquise plaisanterie. Et, pour faire voir qu'il ne serait pas un de ces acolytes passifs qui se font scrupule d'agir sans ordre précis et défini, lorsque M. Tapertite monta sur un tonneau vide qui était debout en guise de tribune dans la salle et qu'il improvisa un speech sur la crise alarmante prête à éclater, le gaillard Hugues alla se placer à côté de l'orateur et, bien qu'il ricana d'une oreille à l'autre à chaque mot que disait son capitaine, il adressa aux railleurs des avertissements si expressifs par la manœuvre de son gourdin que ceux qui étaient d'abord les plus disposés à interrompre l'orateur devinrent d'une attention remarquable et furent les premiers à témoigner hautement leur approbation. Tout n'était pas néanmoins tapage et badinage à la botte. Toute la compagnie n'écoutait pas le speech. Il y avait, à l'autre bout de la salle, longue chambre basse de plafond, quelques hommes en conversation sérieuse pendant ce temps-là. Lorsqu'un des personnages de ce groupe s'en allait dehors, on était sûr de voir de nouvelles recrues entrer après et s'asseoir à leur tour, comme si on devait les relever de faction, et il était assez clair que la chose se passait ainsi, car ces changements avaient lieu de demi-heure en demi-heure au coup de l'horloge. Ces personnes chuchotaient beaucoup entre elles, se tenaient à distance et regardaient souvent alentour, comme si elles ne voulaient pas que leurs discours fussent entendus. Deux ou trois d'entre elles consignaient dans des registres les rapports des autres, à ce qu'il semblait. Quand elles n'étaient pas occupées de ce soin, l'une d'elles recourait aux journaux qui étaient éparpillés sur la table et lisait aux autres à voix basse dans la chronique de Saint-James, le messager, la chronique ou l'avertisseur public, quelques passages relatifs à la question qui les intéressait tous si profondément. Mais ce qui attirait le plus leur attention, c'était un pamphlet intitulé « Le foudroyant » qui avait épousé leurs opinions et que l'on supposait à cette époque émaner directement de l'association. Il était toujours demandé, et soit qu'il fût lu tout haut à un petit groupe avide ou médité par un lecteur isolé, la lecture en était infailliblement suivie d'une conversation orageuse et de regards très animés. Au milieu de son allégresse et de son admiration pour son capitaine, Hugues reconnut, à ses signes et d'autres encore, l'air de mystère qu'il avait déjà frappé avant d'entrer. Il était clair comme le jour qu'il y avait là-dessous quelques projets sérieux et que les bruyantes régalades du cabaret cachaient des menées dangereuses. Peu ému de cette découverte, il n'en était pas moins satisfait de ses quartiers et il y serait demeuré jusqu'au matin si son conducteur ne s'était levé bientôt après minuit pour rentrer chez lui. M. Tapertite, ayant suivi l'exemple de M. Dennis, ne laissa plus à Hugues aucun prétexte de rester. Ils quittèrent donc ensemble la taverne, tous les trois, en braillant une chanson de « pas de papisme » à faire retentir toute la campagne de ce vacarme affreux. « Allez, capitaine !» cria Hugues lorsqu'ils eurent braillé jusqu'à en perdre la respiration. « Encore un couplet !»
M. Tappertit, sans la moindre répugnance, recommença, et le trio continua sa route d'un pas chancelant, bras dessus, bras dessous, poussant des cris enragés et défiant le guet avec une grande valeur. Il est vrai qu'il n'y avait pas à cela une grande bravoure, ni une hardiesse exagérée, vu que les gardiens de nuit d'alors, n'ayant pas d'autre titre à leur emploi qu'un âge très avancé et des infirmités constatées, s'enfermaient d'habitude hermétiquement et vivaient dans leur guérite aux premiers symptômes de trouble et n'en sortaient que quand ils avaient disparu. M. Dennis, qui avait une voix de basse taille et des poumons d'une puissance considérable, se distinguait particulièrement dans ce genre, ce qui lui fit beaucoup d'honneur auprès de ses deux compagnons.
« Quel drôle de garçon vous êtes !» dit M. Tappertit. « Vous êtes joliment discret et réservé. Pourquoi ne dites-vous jamais votre profession ?»«
Répondez tout de suite au capitaine !» cria Hugues en lui enfonçant son chapeau sur la tête. « Pourquoi ne dites-vous jamais votre profession ?»
« J'ai une profession aussi distinguée, frère, que n'importe quel gentleman en Angleterre, une occupation aussi douce que n'importe quel gentleman peut en désirer une. »«
Avez-vous fait un apprentissage ?» demanda M. Tappertit.
« Non, génie naturel, » dit M. Dennis. « Pas d'apprentissage. Ça m'est venu tout seul. Maître Gashford connaît ma profession. Regardez cette main que voici. » « Eh bien, elle a fait plus d'une besogne avec une propreté et une dextérité inconnues auparavant. Lorsque je regarde cette main, » dit M. Dennis en l'agitant en l'air, « et que je me rappelle les élégantes besognes qu'elle a troussées, je me sens tout à fait mélancolique de penser que je deviens vieux et faible. Mais voilà la vie du monde. »
Il poussa un profond soupir en s'abandonnant à ses réflexions, puis, mettant un air distrait, ses doigts sur la gorge de Hugues et particulièrement sous l'oreille gauche, comme s'il étudiait le développement anatomique de cette partie de sa constitution, il hocha la tête d'une manière consternée et versa de vraies larmes.
« Vous êtes une espèce d'artiste, je suppose, hein ?» dit M. Tappertit.
« Oui, » répliqua Dennis, « oui, je peux m'appeler un artiste. » Un ouvrier de fantaisie. L'art embellit la nature, telle est ma devise.
Et comment appelez-vous ceci ? Dit M. Tappertit en lui prenant le bâton qu'il avait à la main.
C'est mon portrait qui est en haut, répliqua Dennis. Le trouvez-vous ressemblant ?
Eh mais, il est un peu trop beau, dit M. Tappertit. Qui l'a fait, vous ?
Moi ? Partit Denis en contemplant avec tendresse son image. « Je voudrais bien avoir ce talent. Cela fut sculpté par un de mes amis qui n'existe plus. La veille même de sa mort, il tailla cela de mémoire avec son couteau de poche. « Je mourrai bravement, dit mon ami, et mes derniers instants seront consacrés à faire le portrait de Denis. Voilà ce que c'est. »«
Voilà une drôle d'idée, dit M. Tappertit. »
« Ah oui, une drôle d'idée !» répliqua l'autre en soufflant sur le nez de son image et le polissant avec le manche de son habit. « Mais c'était aussi un drôle de sujet, une espèce de bohémien, un des plus beaux hommes et des mieux découplés que vous ayez jamais vus. Ah, il me dit des choses qui vous feraient joliment tressaillir, cet ami-là, le matin du jour où il mourut. »«
Vous étiez donc avec lui dans ce moment-là, » dit M. Tappertit.
« Mais oui, » répondit Dennis avec un regard singulier, « j'y étais, oh, certainement que j'y étais. Sans moi, il ne serait point parti pour l'autre monde aussi confortablement de moitié. Je m'étais trouvé avec 3 ou 4 membres de sa famille dans les mêmes circonstances. C'étaient tous de beaux garçons. »
« Il devait bien vous aimer, » remarqua M. Tappertit en lui lançant un coup d'œil oblique.
« Je ne sais pas s'il m'aimait bien, en effet, » dit Dennis avec quelque hésitation, « mais ils mûrent tous auprès d'eux à leur décès. Aussi, j'ai honte de leur garde-robe. Ce foulard que vous voyez autour de mon cou appartenait à celui dont je vous parle, celui qui fit ce portrait. »
M. Tappertit regarda l'article désigné et parut se dire en lui-même que le défunt avait sur la toilette des idées particulières et qui, dans tous les cas, n'étaient pas ruineuses. Il n'en fit cependant pas tout haut la remarque et laissa son mystérieux camarade continuer sans interruption.
« Cette culotte, » dit Dennis en frottant ses jambes, « cette culotte même, l'appartenait à un de mes amis, qui a échappé pour toujours aux tribulations d'ici-bas.
cet habit aussi. J'ai souvent marché derrière cet habit dans les rues en me demandant s'il ne me reviendrait pas quelque jour. Cette paire de souliers a dansé une bourrée au pied d'un autre individu devant mes yeux, une demi-douzaine de fois au moins. Et quant à mon chapeau, dit-il en l'ôtant et le faisant tourner sur son poing, Seigneur Dieu, quand je pense que j'ai vu ce chapeau monter Holborn sur le siège d'une voiture de louage, ah, bien des fois, bien des fois.
Vous ne voulez pas dire que ceux qui ont porté jadis ces objets soient tous morts, j'espère ? Dit M. Tappertit, s'éloignant un peu de lui en lui posant cette question.
Il n'y en a pas un qui soit en vie, répliqua Dennis. Pas un depuis le premier jusqu'au dernier.
Il y avait quelque chose de si lugubre dans cette circonstance et qui expliquait d'une manière si étrange et si horrible son habillement fané, décoloré peut-être par la terre des tombeaux, que M. Tappertit annonça brusquement qu'il suivait un autre chemin et s'arrêta tout court pour lui souhaiter le bonsoir de tout son cœur. Comme il se trouvait près de Old Bailey, le tribunal, et que M. Dennis se rappela qu'il y avait des porte-clés dans la loge du concierge avec lesquels il pourrait passer la nuit à discuter sur des sujets intéressants pour eux tous, sur quelques points de sa profession au coin du feu, en vidant de petits verres de l'amitié, il se sépara de ses compagnons sans trop de regrets, et ayant échangé une cordiale poignée de main avec Hugues, en lui donnant rendez-vous pour le lendemain matin, de bonne heure, à la botte, il les laissa poursuivre leur route. « C'est un drôle de corps, » dit M. Tappertit, en observant le chapeau de feu le cocher de fiacre descendre la rue avec un mouvement oscillatoire. « Je ne peux pas deviner ce qu'il est. Pourquoi donc n'a-t-il pas des culottes de commande comme tout le monde ? Qu'est-ce qui l'empêche de porter des habits de vivant ?»
« C'est un homme chanceux, capitaine !» cria Hugues. « Je voudrais bien avoir des amis tels que les siens.
J'espère toujours qu'il ne leur fait pas faire leur testament pour les assommer ensuite, » dit M. Tappertit d'un air soucieux. « Mais allons, les bulldogs unis m'attendent. En avant, qu'est-ce que vous avez ?»«
Quelque chose que j'avais tout à fait oublié, »
dit Hugues, qui venait de tressaillir en entendant une horloge voisine. « J'ai quelqu'un à voir cette nuit. Il faut que je retourne tout de suite sur mes pas. » Tandis que nous étions là à boire et à chanter, ça m'était sorti de la tête. C'est bien heureux que je me le sois rappelé. M. Tappertit le regarda comme s'il eût été sur le point d'exprimer quelque reproche majestueux au sujet de cet acte de désertion. Mais la précipitation de Hugues montrant clairement que l'affaire était pressante, il lui fit grâce de ses observations et lui accorda la permission de partir sur le champ, faveur précieuse que l'autre reconnut par un grand éclat de rire.
« Bonne nuit, capitaine » cria-t-il. « Je suis à vous, à la vie, à la mort. Souvenez-vous-en. »«
Adieu !» dit M. Tappertit en agitant sa main. « Hardiesse et vigilance !»«
Pas de papisme, capitaine !» rugit Hugues. « Plutôt voir l'Angleterre dans le sang !» cria son terrible chef.
Sur quoi Hugues applaudit, toujours en riant aux éclats, et se mit à courir comme un lévrier. « Cet homme fera honneur à mon corps, » dit Simon en tournant sur son talon d'un air pensif. Et voyons un peu, dans un changement de société qui est inévitable, si nous nous soulevons et que nous remportions la victoire, quand la fille du serrurier sera à moi, il faudra me débarrasser de Mix d'une manière quelconque, ou un soir, pendant mon absence, elle empoisonnera la bouilloire à thé. » Il pourrait épouser Mix dans un moment d'ivresse. Oui, c'est ça. Je vais en prendre note.
Chapitre 40. Songeant fort peu au plan d'heureux établissement dont venait d'accoucher pour lui la féconde cervelle de son prévoyant capitaine, Hugues ne s'arrêta pas avant que les géants de Saint-Dunstan eussent frappé l'heure au-dessus de sa tête. Alors, il fit jouer avec une grande vigueur la poignée d'une pompe qui se trouvait près de là, et, fourrant sa tête sous le robinet, il se mit à prendre une bonne douche, laissant l'eau tomber en cascade de chacun de ses cheveux vierges du peigne, et quand il fut trempé jusqu'à la ceinture, considérablement rafraîchi d'esprit et de corps par cette ablution, et presque dégrisé pour le moment, il se sécha du mieux qu'il put, puis il franchit la chaussée et fit manœuvrer le marteau de la porte de Middle Temple. Le portier de nuit regarda d'un œil revêche à travers un petit guichet du portail et cria « Qui vive ?» Salut auquel Hugues répondit « Ami,
en lui disant de se dépêcher de lui ouvrir. « Nous ne vendons pas de bière ici, cria l'homme. Qu'est-ce que vous voulez ?»«
Entrez, répliqua Hugues, et il donna un grand coup de pied dans la porte.
« Pour aller où ?»«
À Pepper Buildings. »«
Chez qui ?»«
Sir John Chester. »
Et il accentua chacune de ses réponses d'un nouveau coup de pied. Après avoir un peu grogné, le portier lui ouvrit la porte et Hugues passa, mais non sans subir une inspection sérieuse.
« Qui, vous ?»«
Rendre visite à Sir John à 7 heures de nuit, » dit l'homme.
« Oui, » dit Hugues, « moi. »«
Eh bien quoi ?»«
Mais il faut que je vous accompagne et que je vois si vous y allez, car je ne le crois pas. »«
Venez donc alors. » L'examinant d'un regard soupçonneux, l'homme, avec une clé et une lanterne, marcha à son côté et le suivit jusqu'à la porte de Sir John Chester. Le coup de marteau qui donna Hugues retentit au travers du sombre escalier comme l'appel d'un fantôme et fit trembler le pâle lumignon dans la lampe assoupie.
« Croyez-vous maintenant qu'il désire me voir ?» dit Hugues.
Avant que l'homme eût eu le temps de répondre, on entendit un pas à l'intérieur, une lumière apparut et Sir John, en robe de chambre et en pantoufles, ouvrit la porte.
« Je vous demande pardon, Sir John, » dit le portier en ôtant son chapeau. « Voici un jeune homme qui prétend avoir à vous parler. » « Ce n'est guère l'heure des visites. J'ai cru prudent de l'accompagner. »«
Ah ah !» cria Sir John en relevant les sourcils. « C'est vous, messager. Entrez, c'est bien mon ami. Je loue grandement votre prudence. Merci. Dieu vous bénisse. Bonne nuit. »
De se voir louer, remercier, honorer d'un « Dieu vous bénisse » et congédié avec les mots « Bonne nuit » par un gentleman qui avait un « Sir » devant son nom et qui signait « MP », membre du Parlement, par-dessus le marché, c'était quelque chose pour un portier. Il se retira très humblement et avec force salut. Sir John suivit dans son cabinet de toilette son visiteur attardé et, se plaçant dans sa bergère devant le feu après l'avoir dérangé pour mieux le voir debout devant lui, le chapeau à la main près de la porte, il regarda de la tête aux pieds. C'était bien ce vieillard, au visage toujours calme et agréable. C'était son teint fleuri, clair et tout à fait juvénile, le même sourire, la précision et l'élégance habituelles de sa toilette, les dents blanches et bien rangées, ses manières composées et paisibles, chaque chose comme elle avait accoutumé d'être, nulle marque de l'âge, ni des passions, ni envie, ni haine, ni mécontentement, tout tranquille et serein. Cela faisait plaisir à voir. Il signait M.P.
Mais comment cela ? Et mais voici comment.
C'était une orgueilleuse famille, plus orgueilleuse en vérité qu'opulente. Il avait couru le risque d'être arrêté pour dette, d'avoir affaire au baïf et de tâter de la prison, d'une prison vulgaire, ouverte aux petites gens qui ne jouissent que de petits revenus. Les gentlemen des maisons les plus anciennes n'ont pas de privilèges qui les exemptent de si cruelles lois. Il faut pour cela qu'ils appartiennent à une grande maison, la seule qui confère ce privilège. Alors c'est différent. Un orgueilleux personnage de sa race trouva moyen de l'envoyer au Parlement. Il offrit non pas de payer ses dettes, mais de le laisser siéger pour un bourg dévoué jusqu'à ce que son propre fils eût atteint sa majorité. C'était toujours 20 ans de bon s'il vivait jusque-là. Cela valait un bill d'insolvabilité reconnu et c'était infiniment plus distingué. Voilà comment Sir John Chester devint un membre du Parlement. Mais pourquoi Sir John ? Rien de plus simple, de si aisé. Que l'épée royale vous touche et la transformation est accomplie. John Chester, Esquire, M.P., parut à la cour. Il y alla porter une adresse au chef de l'État à la tête d'une députation. Des manières si élégantes, tant de grâce dans le maintien, une conversation si aisée, ne pouvaient passer inaperçues. Monsieur était trop commun pour un pareil mérite. Un homme si gentlemanesque aurait dû, mais la fortune est si capricieuse, naître duc. Précisément, comme quelques ducs auraient dû naître gens de rien, il plut au roi, s'agenouilla chrysalide et se releva papillon. Voilà comment John Chester, Esquire, fut fait chevalier et devint Sir John.
Je croyais, quand vous m'avez laissé ce soir mon estimable connaissance, dit Sir John après un silence assez long, que vous aviez l'intention de revenir plus tôt que cela.
Je l'avais en effet, maître. Et c'est comme cela que vous avez tenu parole, riposta M. Chester en jetant les yeux sur sa montre. Est-ce cela ce que vous voulez dire ?
Au lieu de répliquer, Hugues s'appuya sur son autre jambe, fit passer son chapeau dans son autre main, regarda le parquet, le mur, le plafond, et enfin Sir John lui-même,
Devant l'agréable figure de son hôte, il baissa de nouveau ses yeux et les fixa sur le parquet. « Et comment avez-vous employé votre temps ?» dit Sir John en croisant ses jambes avec indolence. « Où avez-vous été ? Quel mal avez-vous fait ?»«
Pas de mal du tout, maître, » grommela Hugh d'un air humble. « Je n'ai fait que ce que vous m'avez ordonné. »«
Ce que je... quoi ?» répliqua Sir John. « Eh bien alors, » dit Hugh avec embarras, « ce que vous m'avez conseillé, ce que vous m'avez dit que je devais ou que je pouvais faire ou que vous feriez vous-même si vous étiez à ma place, ne soyez donc pas si sévère avec moi, maître. »
Quelque chose comme une expression de triomphe à la vue du parfait contrôle qu'il avait établi sur ce rude instrument parut un instant dans les traits du chevalier, mais cela s'évanouit aussitôt qu'il commença de répondre en se taillant les ongles.
« Lorsque vous dites que je vous ai ordonné, mon bon garçon, cela implique que je vous ai chargé de faire quelque chose pour moi, quelque chose que je désirais vous faire faire, quelque chose de relatif à mes desseins particuliers, vous comprenez ? Or, je n'ai pas besoin, j'en suis sûr, d'insister sur l'extrême absurdité d'une telle idée, encore qu'elle ne soit nullement intentionnelle. Ainsi veuillez, et ici il tourna ses yeux vers lui, « faire plus d'attention à ce que vous dites. Vous y penserez, n'est-ce pas ?»«
Je n'ai pas eu l'intention de vous offenser, » dit Hugh. « Je ne sais que dire. Vous me tenez de si court. » »«
On vous tiendra de beaucoup plus court, mon bon ami, d'infiniment plus court, un de ces jours. Vous pouvez y compter, » répliqua son patron avec calme. « À propos, au lieu de m'étonner que vous ayez été si long à venir, je devrais plutôt m'étonner que vous soyez venu. » Qu'est-ce que vous me voulez ?
Vous savez, maître, dit Hugues, que je ne pouvais pas lire l'affiche que j'avais trouvée et que, supposant que c'était quelque chose d'extraordinaire à la façon dont c'était enveloppé, je la portais ici.
Et ne pouviez-vous pas demander à tout autre que moi de vous la lire, ours mal léché ? Dit Sir John.
Je n'avais personne à qui confier un secret, maître. Depuis que Barnabé Rudge a disparu pour tout de bon, et il y a 5 ans de cela, je n'ai causé qu'avec vous seul.
Vous m'avez fait un grand honneur, certainement.
Mes allées et venues, maître, pendant tout ce temps, lorsqu'il y avait quelque chose à vous dire, se sont répétées parce que je savais que vous seriez en colère contre moi si je restais à l'écart, dit Hugues, lâchant ses paroles à l'étourdie après un silence plein d'embarras, et parce que je désirais faire mon possible pour vous plaire afin de ne pas vous avoir contre moi. Voilà, c'est la vraie raison pour laquelle je suis venu cette nuit. Vous le savez bien, maître, j'en suis sûr.
« Vous êtes un finaud, » répliqua Sir John en fixant sur lui ses yeux, « et vous avez 2 faces sous votre capuchon, tout aussi bien que les plus rusées. Ne m'avez-vous pas donné ce soir dans cette chambre un tout autre motif ? Ne m'avez-vous pas dit que vous en vouliez à quelqu'un qui vous a témoigné du mépris dernièrement et qui, en toutes circonstances, vous a malmené, qui vous a traité plutôt comme un chien que comme un homme, son semblable ?
« Bien sûr, je vous ai donné ce motif !» cria Hugh en s'emportant ainsi que l'autre l'avait prévu. « Je vous l'ai dit et je vous le répète, je ferai n'importe quoi pour tirer vengeance de lui, n'importe quoi !»
Et quand vous m'avez dit que lui et les catholiques souffriraient de la part de ceux qui se sont réunis sous cette affiche, je vous ai déclaré que je voulais être l'un d'eux, leur chef fut-il le diable en personne. Eh bien, je suis l'un d'eux à présent. Voyez si je suis homme de parole et si on peut compter sur moi. Il est possible que je n'ai pas beaucoup de tête, maître. « Mais j'ai assez de tête pour me souvenir de ceux qui ont des torts avec moi. Vous verrez, il verra, et 100 autres verront si j'en rabattrai rien quand le moment sera venu. Ce n'est rien de m'entendre, il faut me voir mordre. J'en connais d'aucuns pour qui il vaudrait mieux avoir un lion sauvage au milieu d'eux que moi quand je serai déchaîné. Oh oui, cela vaudrait mieux pour eux. »
Le chevalier le regarda avec un sourire beaucoup plus significatif qu'à l'ordinaire, et lui montrant la vieille armoire, il le suivit des yeux, tandis que Hugues remplissait un verre et le vidait d'un trait. M. Chester, derrière le dos de son hôte, sourit d'une façon encore plus significative.
« Vous êtes d'une humeur tapageuse, mon ami, » dit-il lorsque Hugues se fut retourné de son côté.
« Moi, non, maître, » cria Hugues, « je ne dis pas la moitié de ce que je pense. Je ne sais pas m'exprimer, je n'ai pas ce don. Il y en a assez de ceux qui parlent parmi nous. Moi, je serai un de ceux qui agissent. »
« Ah, vous avez donc rejoint ces gaillards-là, » dit Sir John de l'air de la plus profonde indifférence.
« Oui, je suis allé à la maison que vous m'aviez désignée et je me suis fait inscrire comme recrue. Il y avait là un autre homme nommé Denis. »
Denny.
Ah oui, cria Sir John en riant. Oh oui, oui, encore un joli garçon, je crois. Un fameux luron, maître, un camarade selon mon cœur, et joliment chaud sur l'affaire en question, chaud comme braise.
Je l'ai entendu dire, répliqua Sir John négligemment. Vous n'avez pas eu l'occasion d'apprendre quel est son métier, n'est-ce pas ?
Il n'a pas voulu nous le dire, cria Hugues. Il en fait mystère.
Ah ah, dit Sir John en riant, un étrange caprice. Il y a des gens qui ont cette faiblesse-là. Vous le saurez un jour, je vous le jure.
Nous sommes des intimes déjà, dit Hugues.
C'est tout à fait naturel. Et vous avez bu ensemble, hein ? Poursuivit Sir John. Vous ne m'avez pas dit, je crois, où vous êtes allé de compagnie en sortant de chez Lord George.
Hugues ne le lui avait pas dit et n'avait pas songé à le lui dire. Mais il le lui conta, et cette demande ayant été suivie d'une longue file de questions, il rapporta tout ce qui s'était passé, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, l'espèce de gens qu'il avait vus, leur nombre, leurs sentiments, leurs conversations, leurs espérances et leurs intentions apparentes. Son interrogatoire fut dirigé avec tant d'art qu'il croyait donner tous ses renseignements de lui-même et non se les laisser arracher, et grâce à l'habile manège de Sir John, il en était tellement convaincu que lorsqu'il le vit bâiller enfin et se plaindre d'être excessivement fatigué, Hugues lui fit des excuses à sa manière de l'avoir tenu là si longtemps à écouter son bavardage.
« Là, maintenant, allez-vous-en, » dit Sir John en tenant d'une main la porte ouverte. « Vous avez fait de la jolie besogne ce soir, je vous avais dit de ne pas faire cela. Vous pouvez vous mettre dans l'embarras, mais vous voulez absolument une occasion de vous venger de votre orgueilleux ami Erdel, et pour y réussir, vous risqueriez n'importe quoi, je suppose. »
« Oui, certes, » riposta Hugues en s'arrêtant au moment où il sortait et regardant en arrière. « Mais qu'est-ce que je risque ? Qu'est-ce que j'ai à perdre, maître ? Des amis ? Un ménage ? Je m'en moque pas mal, je n'en ai pas. Ainsi, qu'est-ce que ça me fait ? Donnez-moi une bonne bagarre, laissez-moi régler de vieux comptes dans une émeute hardie où il y aura des hommes pour me soutenir, et après ça, faites de moi ce que vous voudrez. Au bout du fossé, la culbute. »
« Qu'avez-vous fait de ce papier ? » dit Sir John.
« Je l'ai sur moi, maître. »
« Jetez-le à terre en vous en allant. Il vaut mieux ne pas garder de ces choses-là sur soi. »
Hugues fit un signe de tête affirmatif et, ôtant son bonnet de l'air le plus respectueux qu'il put prendre, il s'éloigna. Sir John, ayant mis le verrou à la porte derrière son visiteur, revint à son cabinet de toilette, se rassit encore une fois devant le feu qu'il contempla longtemps dans une méditation sérieuse. « Cela va bien, » dit-il enfin avec un sourire, et promet merveille. Voyons un peu. Mes parents et moi, qui sommes les plus chauds protestants du monde, nous souhaitons tout le mal possible à la cause des catholiques romains. Et quant à Saville, qui a présenté le bill en leur faveur, j'ai contre lui en outre une objection personnelle. Mais comme chacun de nous fait de sa propre personne le premier article de son credo, nous ne nous commettrons pas en nous joignant à un fou fieffé tel que l'est indubitablement ce Gordon. Seulement, je peux fomenter en secret les troubles qu'il occasionne et me servir dans ce but d'un aussi bon instrument que le sauvage ami qui sort de chez moi. C'est une chose utile pour favoriser nos vues réelles. Je puis encore exprimer, dans toutes les conjonctures convenables, en termes modérés et polis, une désapprobation de ses actes, bien que nous soyons d'accord avec lui en principe. C'est le moyen infaillible de nous faire une réputation de gens honnêtes et droits dans nos desseins, réputation qui ne peut manquer de nous être infiniment avantageuse et de nous élever à quelque importance politique. Très bien. Voilà pour le côté public de cette affaire. Quant aux considérations privées, j'avoue que si ces vagabonds faisaient quelque émeute, ce qui ne semble pas impossible, et qu'ils infligeassent quelques petits châtiments à Erdel comme étant un des membres les plus actifs de la secte, cela me serait extrêmement agréable et m'amuserait outre mesure, très bien encore, et même peut-être mieux. Quand il en fut là, il prit une prise de tabac, puis, commençant à se déshabiller tout doucement, il résuma ses méditations en disant avec un sourire « Je crains, oui, je crains excessivement que mon ami ne marche un peu bien vite sur les traces de sa mère. Son intimité avec M. Denny est de mauvais augure, mais je ne doute pas qu'il n'eût toujours fini par là. Si je lui prête le secours de ma main, la seule différence, c'est qu'il boira peut-être au total un peu moins de gallon ou de poinçon ou de mie dans cette vie qu'il n'en aurait bu autrement. Cela ne me regarde pas. et c'est d'ailleurs une affaire de mince importance. Là-dessus, il prit une autre prise de tabac et alla se coucher.